Chloé, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu fais à Concertina ?
Je suis présente sur Concertina déjà parce que c'est trop intéressant. Il y a plein de confs à écouter, ça fait lien avec beaucoup de... D'autant plus cette année, la thématique fait lien avec ce que nous on porte pendant l'année, c'est-à-dire les questions migratoires. Donc c'est à la fois à titre perso et à titre professionnel, et aussi parce qu'il se trouve que cette année, effectivement, je vais intervenir dans une table ronde là, qui a lieu dans un petit moment. C'est une table ronde où on va faire une sorte de grand saut entre une personne de la CIMAD qui va nous parler des centres de rétention administrative et nous, en tant que passerelle, de la maison d'accueil qu'on est en train de faire. Donc c'est un peu deux mondes opposés, on va un peu parler de cette réalité.
Alors t'as lâché quelques mots, si on ne te connaît pas, donc c'est quoi cette maison, c'est quoi l'assaut derrière, c'est quoi l'événement qui aura lieu au mois de septembre ?
Alors, on va la faire courte. Passerelle est une association née en 2019, association dont la vocation est d'accueillir des personnes en exil, mais aussi d'informer et de former sur les questions migratoires.
Ici à Diolfi ?
Ici à Diolfi, et c'est là que du coup, le projet de départ était d'ouvrir une maison pour accueillir des personnes exilées, les héberger, les accompagner sur le plan social, administratif, de santé, etc. Et pour en arriver là, on a créé une coopérative immobilière qui s'appelle la COP Lucette, en lien avec la maison Lucette, qui est cette maison qu'on a absolument voulu acheter parce qu'elle correspondait vraiment en termes de prix, mais aussi en termes de potentialité à ce qu'on souhaite faire. Et la dernière dame qui a vécu s'appelait Lucette. On a acheté cette maison à son neveu qui nous en a un peu parlé et qui nous a dit que Lucette aurait très certainement aimé que sa maison se transforme en projet social. Donc on a voulu lui faire un petit hommage en lui donnant le nom de la maison et le nom de la coopérative. Et cette coopérative, à ce jour, elle rassemble 600 personnes qui ont pris des parts sociales. Ça veut dire qu'ils ont mis... la part sociale coûte 100 euros. Certains ont pris une part sociale et ils sont hyper importants. Aussi tous ceux qui en ont pris une. Et il y a plein de gens qui en ont pris plus. Sachant que sur les 600 personnes, il y a une majorité de gens qui ont pris entre une et six parts sociales. Donc ça veut dire que c'est plutôt plein de gens qui ont pris un peu plutôt que des très gros sociétaires. Et ça, bah, ça correspond tout à fait à ce qu'on veut faire puisque l'idée, c'est de transformer un projet associatif citoyen en un projet très collectif avec plein de gens qui nous portent et qui nous ont du coup permis d'acheter cette maison l'été dernier qu'on est en train de retaper. Et on va ouvrir les premières places pour les personnes exilées en septembre. Et en septembre, ce sera aussi le moment des 10 ans de notre festival, puisque ce qui nous intéresse, c'est faire de l'accueil, mais aussi défendre le droit des personnes exilées, réfléchir sur l'immigration et réfléchir sur comment on accueille, parce que ça, c'est un gros sujet aussi, le comment. Et d'où le festival Les Murs ne servent à rien, qu'on a créé. Donc, il y a 9 éditions qui ont eu lieu. La 10e édition aura lieu cette année, du 18 au 20 septembre. C'est des films, des lectures, des conférences, des expositions, tout sur les questions migratoires, tout en participation libre. Et l'idée, c'est que chacun puisse entrer dans les questions de migration par le médium qu'il souhaite. On peut tout faire, mais aussi on peut juste faire une expo, juste aller voir un court-métrage, emmener son enfant sur la programmation enfant. Voilà, c'est un événement vraiment pluridisciplinaire.
Donc on reparlera bien sûr de ce festival probablement sur ces mêmes ondes. Tu l'as dit aussi, évidemment les migrants sont souvent, en tout cas, ils planent derrière eux la possibilité de finir en centre de rétention administrative, donc à être enfermés, d'où le lien qu'on peut évidemment faire. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'il y a des nations plus ciblées dans ces centres de rétention ?
En centre de rétention administrative, même si ce n'est pas du tout mon sujet, je ne suis pas du tout spécialiste d'ECRA, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a essentiellement des gens de nos anciens pays colonisés. Donc voilà, ça c'est une réalité. Après, ce qui moi m'intéresse et m'afflige, c'est comment cette population elle évolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, avec la dégradation des services qui gèrent les papiers des personnes exilées en France, et notamment les titres de séjour, donc là on parle vraiment du droit des étrangers, hein, pas du droit d'asile, il y a une détérioration de ça, il y a une plateforme numérique qui a été faite, donc c'est complètement dématérialisé. Cette plateforme, elle marche extrêmement mal. Il y a des rapports sur ça. Il y a même un rapport du défenseur des droits sur cette nouvelle plateforme qui fait que les gens n'obtiennent pas leur rendez-vous, par exemple, pour renouveler leur titre de séjour. Et donc, en fait, ils tombent dans l'illégalité juste du fait qu'ils n'ont pas eu leur rendez-vous et que leur titre de séjour n'a pas été renouvelé. Donc, en fait, c'est l'État, là, qui crée des personnes sans papier qui, du coup, ces personnes, derrière, peuvent être arrêtées lors d'un contrôle lambda dans la rue, au volant de leur voiture ou quoi. Et si ça s'enchaîne mal, entre guillemets, c'est-à-dire si le gendarme se rend compte que la personne n'a pas ses papiers sur elle, n'a plus de titre en cours, ah ben peut-être garde à vue, la suite de ça, garde à vue, CRA. Et peut-être à la fin, une expulsion, ce qui n'est vraiment pas toujours le cas, puisque il y a quand même beaucoup de gens qui finissent en CRA et qui ne seront pas expulsés, pour plein de raisons, notamment parce que beaucoup de pays ne souhaitent pas récupérer leurs ressortissants. Donc là, on voit aussi comme c'est complètement dingo, en fait, comme système. C'est-à-dire qu'on enferme des gens sur des semaines et des semaines pour, au final, leur dire « rentrez chez vous ». Sauf qu'entre-temps, peut-être t'as perdu ton boulot, t'as perdu ton appart, t'es rentré dans une grande précarité, t'as cassé ton couple, tes enfants, ils t'ont pas vu pendant 45 jours. Enfin, il faut voir, en fait, le délire dans lequel on est. Pourquoi ? Pour des personnes qui n'ont pas commis de délit, quoi.
Et vous l'expliquez, pourquoi ils font ça ?
Pourquoi l'État fait ça ?
Parce qu'en plus, ça coûte cher, un centre de rétention.
Ça coûte très cher, mais nos politiques migratoires, elles coûtent très cher. Frontex, c'est l'agence européenne la mieux dotée d'Europe. Enfin, je sais pas, moi, je suis née en 1982, j'ai pas l'impression que c'est pour ça qu'on a créé l'Europe, mais ça me semblait que c'était pour qu'on vive ensemble. Bon, voilà, c'est un peu bizarre.
Ensemble, mais sans les autres.
Voilà, ensemble, qui ensemble ? Nous, pas eux. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi ils font ça ? Ça serait un débat bien plus large et sûrement des gens pourraient mieux en parler, mais je pense que ça fait partie d'une même idée qu'on peut décourager les gens, qu'on pourrait décourager les gens. Comme disait François Gémen, les murs, ils parlent pas à ceux de l'extérieur, ils parlent à ceux de l'intérieur. Et ça, je pense tout le temps à cette notion, c'est-à-dire qu'en fait, on veut rassurer les gens qui sont dedans en leur disant, vous inquiétez pas, on va les empêcher d'entrer. Non, c'est pareil, on va les renvoyer.
Décourager quoi, qui, en fait, ils sont pas au courant que c'est décourageant.
Et
la plupart qui débarquent ici, ils savent pas que...
Alors ça, je pense que maintenant, il y a de plus en plus quand même avec la communication mondiale, entre guillemets, la mondialisation des communications, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens. En tout cas, sur la difficulté de la route, les gens sont de plus en plus informés, notamment sur le continent africain. Après, sur la difficulté que c'est ici de trouver un travail, s'héberger, obtenir un titre, ne pas être à la rue, oui, effectivement, les personnes exilées qui sont ici et qui vivent ça, elles cachent ça beaucoup à leur famille. Et ça, j'ai pu le voir vraiment avec des gens proches
On fait style que tout va bien.
Voilà. Qu'ils ne parlent pas de cette difficulté-là. Enfin, après que t'aies fait 1000-1500 km pour aller en Europe, est-ce que tu vas dire je suis sous le pont de la Chapelle, quoi ? Bah non.
Tu parlais de la maison que vous êtes en train de refaire, qu'elle avait un bon potentiel. C'est quoi un bon potentiel ?
C'est une maison qui est proche du village, proche d'un arrêt de bus, où au niveau du nombre d'espaces, de chambres, de pièces, ça correspondait aussi à ce qu'on voulait faire. Il y a aussi une partie, un hangar, où lui, il y a une grosse réfection à faire, mais où à terme, on pourra avoir une salle où on reçoit du public et où on fait des activités culturelles, socio-économiques. Donc voilà, c'était un peu ça. C'était, tu vois l'annonce, tu fais « ça correspond franchement bien ». Et tu visites la maison et tu fais « c'est d'ailleurs ce qu'on a dit en interne ». On doit trouver une solution pour l'acheter.
Et combien de personnes vous pourriez héberger ?
À terme, c'est une maison qui accueillera entre 10 et 15 personnes. C'est rien face aux défis européens, mais c'est beaucoup pour Diolfi.
Et comment c'est perçu à Diolfi ?
Pour l'instant, ça se passe franchement plutôt bien. Sur les 600 sociétaires, une grande majorité sont des gens du territoire, en tout cas du territoire communauté de communes Diolfi-Bourdeaux. Bien sûr, il y a toujours des gens qui pourraient être dans une forme d'opposition, évidemment, et on les entend, on les lit un peu des fois sur les réseaux, et on les invite à venir nous voir, à venir visiter la maison, à venir nous voir au local. Voilà. Nous, on reste vraiment toujours dans une tentative de dialogue. Et l'idée, c'est que cette maison, elle permette que la rencontre se fasse. La plupart des gens qui sont très, très opposés à l'arrivée des personnes exilées, c'est souvent des gens qui n'ont jamais vu ou jamais discuté avec une personne exilée, qui en ont une vision plein de clichés, plein de préjugés en tout cas.
Donc il y a un gros rôle d'éducation populaire encore à faire, quoi.
Oui, ça, de toute façon, tout le temps. Moi, j'ai toujours considéré que voir des personnes exilées dans un campement en bas de chez toi, dans Paris ou dans une ville française, et que le mec, il est là à se laver les dents à un robinet, ça ne fera jamais faire que les gens se rencontrent. Parce qu'en fait, ça ne fait que renforcer l'idée que cette personne, elle est différente de toi et que ça lui va de vivre sur un trottoir. Alors qu'en fait, c'est pas que ça lui va, c'est qu'elle a rien d'autre comme solution. Donc ce fossé... Nous, c'est ce qu'on essaye de casser et de faire que la personne elle soit en lien avec le village, qu'il y ait des activités qui se passent entre les Diolfitois et les personnes exilées, qu'il y ait des concerts, qu'il y ait des cours de français où les gens se croisent. Voilà, qu'on arrête avec cette frontière dans les têtes, en fait.
si je te pose pas de questions, qu'est-ce que t'as envie de dire?
Venez au Festival des Murs de Sartaria, on va fêter nos 10 ans. Le samedi, il y aura un concert d'une fanfare béninoise, donc on va aussi faire la fête. Mais surtout, venez voir la conférence de Damien Simoneau, qui a écrit un livre qui s'intitule « Pourquoi s'emmurer ?» et c'est sur une frénésie mondiale, et qui raconte cette évolution de la construction des murs physiques qui ne servent à rien.
Et qu'est-ce qu'on trouve sur ton stand ?
On trouve de quoi s'informer sur la COP+7, sur comment prendre des parts, sur le projet social et le pré-programme du festival.
Il y a un site internet ?
Pour la COP+7, c'est cop-lucette.fr et pour Passerelle, c'est passerelleasso.fr.
Merci Chloé.
Merci beaucoup.